Radio Turque, Raïssès, rayon 4, caisse 12, Razmataz, les ringards déchaînés. Les gens de panique.
Rinia.
Bashkim Dobre et Afouz Nouji.
Chers auditeurs, vous êtes sur l'émission Rinia sur 105.4. Comme chaque dimanche, nous serons avec vous entre 5h et 6h.
Të gjusë ndëruar, mirë se vini në valet e Radio Rinis në frekuencë 105.4.
Ce jour d'été 2001, coupure soudaine de courant, coupure d'émetteur. Quelle belle fréquence propre et protégée. Vive le plan de fréquence. Valse des what.
Chapitre 68. 1999, le plan de fréquence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le conflit sur la coordination des plans de fréquence entre les gouvernements des deux communautés s'éternise. De guerre lasse, le gouvernement de la communauté française adopte le 16 novembre 1998 un plan de 237 fréquences, dont 150 environ ne bénéficient pas de l'accord de la communauté flamande. le Conseil supérieur de l'audiovisuel remet son avis au printemps 1999.
Cette fois-ci, il fallait d'abord établir un plan de fréquence pour qu'en fonction des fréquences disponibles, les radios puissent demander à occuper telle ou telle fréquence. Et donc, c'est ce qu'on appelait la logique de l'appel d'offres, qui est une logique à la base plutôt économique, enfin, aussi si on veut prendre le contexte dans lequel elle se passe. En Grande-Bretagne, les télévisions privées postulent par appel d'offres pour pouvoir avoir une chaîne dans une région, quoi. On n'imagine pas que ce soit des opérateurs autres que privés qui fonctionnent d'abord par cette logique d'appel d'offres. Bon, enfin, c'est celle-là qui est appliquée ici, même si l'appel d'offres n'est pas économique, pas financier au départ. Mais donc, le problème, c'est que ce plan de fréquence traîne, et on sait pourquoi. On sait que c'est parce qu'avec la communauté flamande, il y a eu des tensions importantes. On sait aussi que même du côté de la communauté française, à plusieurs reprises, une série d'acteurs ont voulu rediscuter le plan tel qu'il était établi.
Comment fait état une carte blanche dans le journal Le Soir en avril 1999 ? Les radios associatives contestent l'avis que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a transmis au gouvernement de la communauté française.
Janvier 2001. Débat sur les radios associatives d'expression dans le cadre du Festival de l'Atelier de création sonore et radiophonique au Botanique. Carmelo Iannuzzo interpelle Evelyne Lenzen, présidente du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Cette carte blanche critiquait plusieurs choses. D'une part, elle prétendait que les jeux étaient déjà faits, c'est-à-dire que les fréquences et leur localisation géographique précisaient d'avance quel diffuseur trouvait sa fréquence supprimée ou conservée. D'autre part, si on regardait la proposition de plan fréquence qui était faite, le pluralisme du paysage radiophonique, normalement garanti par l'article 39 du décret 97, était loin d'être atteint. Alors une première question, est-il possible techniquement de procéder différemment dans la mise en place d'un plan de fréquence ? Et quelles étaient les contraintes ou choix politiques définis au préalable par le gouvernement et le CSA ? Une deuxième question, c'est est-ce que cet article 39 est-il une garantie juridique suffisante pour préserver une visibilité des radios à vocation socioculturelle sur la bande FM ? Donc...
On y va ?
Oui.
Ah ouais. Mais je crois d'abord qu'il faut préciser un peu le rôle du CSA dans l'établissement à la fois d'un plan de fréquence et puis dans l'attribution des fréquences à des opérateurs. Ce sont deux opérations différentes. Il y a d'abord l'établissement d'un plan de fréquence, c'est-à-dire un cadastre des fréquences, l'ensemble de la liste des fréquences disponibles avec leurs caractéristiques techniques. Et puis ensuite, il y a l'attribution de ces fréquences à des opérateurs. Des opérateurs qui sont des réseaux ou qui sont des radios indépendantes. Le CSA, là-dedans, intervient depuis 1997, depuis la réforme du CSA, en donnant un avis conforme au gouvernement à chacune des étapes, à la fois d'établissement du plan de fréquence et à l'attribution des fréquences aux différents opérateurs, réseaux et radios indépendantes, puisque le décret prévoit cette différence entre des réseaux et des radios indépendantes et plus autres différences comme on les connaissait dans la législation précédente. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? Si on prend historiquement et chronologiquement les événements, la première chose à faire, c'est d'établir ce cadastre des fréquences. Pour ça, il faut une institution qui a la compétence technique de le réaliser. En l'occurrence, la Communauté française de Belgique, c'est le BRTE, qui est un département de la RTBF, qui, sur mandat, sur convention du gouvernement, va faire cette étude du plan de fréquence et va essayer de faire en sorte que ce qu'il propose comme fréquence soit compatible au point de vue d'éviter des brouillages, non seulement à l'intérieur des fréquences radiodiffusion, mais également à l'égard de fréquences qui pourraient brouiller, des fréquences qui sont utilisées par d'autres utilisateurs, par exemple les avions, d'autres applications encore, puisque les bandes de fréquences adjacentes sont occupées également en partie par des militaires. Donc, première opération, il y a cet établissement du cadastre des fréquences, c'est-à-dire la liste des fréquences disponibles. Sur quoi, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'ils font ça? Alors, ils partent de plans de base, d'assignation de fréquences, comme on appelle, qui ont été octroyés internationalement à la Belgique dans un grand accord national qu'on appelle singulier, enfin raccourci, le plan de Genève 84. Pourquoi 84? Parce qu'il a été décidé en 1984. là-dessus, ce plan de Genève 84, qui donc liste des fréquences dans la bande 87.7 jusqu'à 108, avec des caractéristiques techniques différentes entre le bas de la bande et le haut de la bande comme tel, puisque je signale qu'à partir de 104.8, les fréquences qui sont assignées sont des fréquences qu'on dit des Y, et qui sont comme caractéristique principale d'avoir des petites hauteurs d'antenne et de faibles puissances d'émission, et que cela, on dansera la carmagnole sur la du Traderidera, ça ne changera rien. Internationalement, ce sont des fréquences qui sont de faible puissance et de faible hauteur d'antenne. La Belgique a environ 700 assignations de fréquences, mais qui, bien sûr, ne sont pas toutes mises en service. Elles se brouilleraient en telles, bêtement. Donc, là-dedans, historiquement aussi, il y a eu plusieurs strates d'occupation de fréquences, de coordination de fréquences au fur et à mesure du temps. Notamment en 91, avant que la compétence soit octroyée aux communautés, il y a eu dans les grandes fréquences haute puissance, haute hauteur d'antenne du bas de la gamme, donc entre 97.7 et 102.4 exactement, il y a eu un splitting des fréquences pour pouvoir occuper un plus grand nombre d'émetteurs sur des fréquences en plus grand nombre, en séparant des fréquences de haute puissance, en les octroyant à la fois des émetteurs et des opérateurs en Flandre et en Wallonie et en communauté française. De là vient d'ailleurs une partie des problèmes qu'on connaît actuellement, puisque à la fois la communauté française, un des débats ou une des différends qu'il y a avec la communauté flamande, c'est bien sûr pour la réoccupation de ces fréquences qui étaient originellement SIC, parce que tout ça est encore juridiquement un peu instable, octroyées à une communauté par rapport à une autre et qui est donc pour l'instant partagé entre les deux autres communautés. Bref, il y a des coordinations qui se sont faites au fur et à mesure du temps. Comment procède le BRTE à partir de ce paquet de fréquences qui existe ? Il va le faire de manière relativement pragmatique, c'est-à-dire qu'il va tenir compte des acteurs qui sont présents sur le marché. Il ne va pas faire, il ne le fait pas jusqu'à présent, et aucun gouvernement successif ne lui a donné la possibilité de le faire. Il ne va pas faire tabula rasa sur tout ce qui existe dans le plan de fréquences en réinventant des fréquences sur des pylônes qui n'existent pas, parce que c'est aussi du fric, c'est aussi à la fois de l'argent et de l'emploi. Donc ils ne vont pas enlever tout ça et considérer qu'il n'y a pas des pylônes qui existent ni des émetteurs qui existent sur ces pylônes. Ils vont donc prendre en considération les choses qui existent en essayant de faire droit à la fois aux acteurs et opérateurs qui sont en présence, et a aussi dégagé une possibilité d'élargissement des opérateurs qui pourront utiliser ce plan de fréquence le plus possible. Donc il y a deux objectifs. Un, pragmatisme, on tient compte des acteurs qui existent. Deux, on essaye de faire évoluer la capacité de fréquence le plus largement possible. Donc ça, c'est les deux critères qui sont employés par le BRTE. Une fois que cette liste des fréquences est déterminée, il est vrai également que pour pouvoir établir ce plan de fréquence à partir du moment où on sait que légalement, on va reconnaître des réseaux et des radios indépendantes, que les calculs qui sont faits en termes de brouillage notamment sont différents si on considère qu'il n'y a que des radios indépendantes ou qu'il y a des réseaux et des radios indépendantes. Donc, il est évident que, il ne faut pas se voiler la face, il est évident que quand le BRTE fait un projet de plan de fréquence, il tient compte de l'existence dans les faits de réseaux de fréquences, inévitablement. Donc ça, c'est pour répondre en partie à la question que vous posiez. Donc, il est vrai qu'il y a une approche pragmatique. Qu'est-ce que le CSA a fait dans pareil cas ? Je ne sais pas ce qu'il fera de même, mais ce qu'il a fait dans l'épisode précédent, c'est prendre acte des fréquences qui figurent dans le cadastre tel que proposé par le gouvernement, simplement pour ne pas rajouter une couche dans la difficulté de négociation avec la communauté flamande, qui déjà mettait en cause ce cadastre comme tel. Si nous avions encore considéré qu'il fallait en plus ajouter une fréquence par-ci, en diminuer une par-là, on aurait fait sauter toute l'opération juridique maintenant, qui est très compliquée, mais juridique d'essayer de faire accepter l'ensemble du cadastre comme étant coordonné. On serait encore parti pour 2 ans de discussion. Donc nous avons pris acte de ce cadastre en proposant une répartition entre réseaux et fréquences indépendantes qui faisait droit aux réseaux existants, mais qui en même temps essayait d'égaliser pour l'ensemble des réseaux, qu'il y ait une couverture qui soit égale pour l'ensemble de ces réseaux considérés comme communautaires, et de dégager aussi la possibilité d'avoir des petits réseaux, soit intervilles, soit régionaux. et de conserver en plus, et c'était bien sûr la quadrature du cercle, et de conserver en plus environ 80 fréquences qui restent consacrées uniquement, vraiment même pas prioritairement, uniquement à des opérateurs indépendants qu'on appelle radio non commerciale, socioculturelle ou toute autre formule, mais en tout cas des radios indépendantes des réseaux. Donc voilà un peu comment on a fonctionné. Alors, à l'époque, le gouvernement n'a pas considéré que la proposition que nous avions faite était mauvaise ou bonne ou quoi que ce soit. Simplement, ils n'ont pas redéposé le projet gouvernement en nous demandant au CSA de bien vouloir donner notre avis sur les réactions qu'ils avaient enregistrées, à la fois de la part des réseaux qui n'étaient pas contents. Mais ça, je crois que dans ce secteur-là, après 3 ans de fréquentation assidue du secteur, je ne crois pas qu'un jour quiconque dans ce secteur sera content. Donc ça, il faut se dire aussi que la situation idéale n'existera pas. En tout cas, pour chacun d'entre vous et chacun d'entre nous, ils nous ont demandé de réagir à la fois aux réactions des réseaux et des radios indépendantes. Nous avons refusé de le faire en considérant que si nous répondions à ces remarques-là, nous rendions notre travail impossible par la suite parce qu'on aurait fait droit à la limite en répondant à un certain nombre de personnes, mais pas à l'ensemble des acteurs qui étaient candidats à une fréquence ou à un réseau. Donc on aurait mis à mal l'égalité de traitement entre chacun des acteurs candidats à un réseau ou à une radio indépendante. Et on en est là depuis lors, je dirais, on n'en est nulle part. Puisque à la fois l'acte politique que Mme Hankelings voulait faire, qui était de déposer un plan de fréquence, donc un cadastre des fréquences, et de mettre en œuvre l'ensemble des opérations d'attribution des fréquences aux communautés françaises, quelle que soit l'opinion des communautés flamandes par rapport à cela, s'est arrêtée. Il faut dire que s'est arrêtée aussi avec le gouvernement qui s'est arrêté en même temps. Donc aucune décision a été prise, le gouvernement a changé, on a changé de coalition et de parti dans cette coalition. La ministre chargée de l'audiovisuel qui a succédé à Mme Collins a souhaité remettre le cadastre à plat. Elle ne s'est rendue compte que plus tard, bien évidemment, parce que c'était un secteur qui est à la fois éminemment technique et éminemment juridique et très très compliqué, s'est rendue compte que plus tard, qu'avoir une négociation, une remise à plat de l'ensemble des paramètres, non seulement du cadastre comme tel, mais en plus d'attribution, était quelque chose vraiment qui prenait un temps assez certain, et où l'accord avec les Flamands, même s'il y avait une unité politique entre tous les ministres concernés par la matière, c'est-à-dire au fédéral, à la communauté flamande et à la communauté française, c'était un même parti politique, enfin, une même couleur politique, en tout cas, c'était pas si simple d'arriver à un accord pour savoir enfin et pour toujours, dirais-je presque, de combien de fréquences nous pourrions disposer les uns et les autres pour pouvoir enfin établir une sécurité pour les acteurs dans les différentes communautés.
Le carrousel tourne toujours. Fin 2001, la communauté française fait recours au Conseil d'État contre la communauté flamande qui a unilatéralement autorisé des dizaines de fréquences. Sous l'instigation d'un nouveau ministre de l'audiovisuel, Richard Miller, elle établit ensuite son cadastre de fréquences. En 2002, suite à l'initiative du Premier ministre Verhofstadt, un groupe bicommunautaire de techniciens se met à l'œuvre. En mai 2002, le conflit demeure sur une vingtaine de fréquences à Bruxelles et dans le Hainaut.
Au CSA, on réfléchit à une autre technologie qui va peut-être permettre, pas à l'horizon de demain matin, mais à l'horizon peut-être d'après-demain matin, de pouvoir peut-être dégager des fréquences, parce que le cadastre est une denrée rare, on n'a pas. Et comme c'est parti maintenant, on va plus vers une paupérisation du nombre de fréquences que vers un agrandissement du parc de fréquences disponibles. Pourquoi ? Parce que par ailleurs, les pays voisins demandent aussi des coordinations de fréquences qui vont faire en sorte que, notamment, la directivité des antennes qu'on va devoir utiliser en communauté française vont être telles que non seulement le bassin d'audience dont parlait Pierre tout à l'heure ne va pas s'accroître, mais risque en plus de se rapetisser dans les temps qui viennent. Donc on est dans une situation qui est de plus en plus inconfortable et je suis tout à fait consciente de la situation. C'est pour ça qu'on a aussi développé au CSA toute une discussion sur l'évolution du numérique hertzien terrestre avec la possibilité de pouvoir faire le choix, en Belgique ce serait un choix portable ou un choix mobile, pas comme dans les autres pays, un choix fixe, puisqu'on ne va pas revenir à mettre des antennes sur son toit. En Belgique, ce serait un peu particulier. Mais donc, on va vers un choix mobile et portable. Et l'idée est d'arriver soit à réserver un morceau de multiplex, ou peut-être même carrément un multiplex pour la radio. Dans pareil cas, ça permettrait à la fois d'avoir des possibilités de réseau de radio qui couvrirait l'ensemble de la communauté française et dégager peut-être la FM pour des activités, pour d'autres types de radio.
Est-ce que le câble peut être un vecteur de diffusion avec un muscari radiophonique qui serait octroyé par le gouvernement pour des radios indépendantes ?
Tout à fait. Le seul différent, c'est que pour l'instant, la consommation de radio via le câble n'existe pas. Je dirais, il n'y a pas une pratique. Je crois que la pratique, elle est 10%. La pratique est beaucoup plus fréquente en Flandre.
Et que personne ne l'oublie.
Dans le secteur audiovisuel, les rapports sont largement dominés par les logiques des grands pays par rapport aux petits pays, par les priorités du secteur de la distribution-diffusion sur celle de la production de programmes, par les considérations économiques et financières sur les considérations culturelles.
Evelyn Lensen, 6 novembre 1997, jour de l'inauguration du nouveau Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon Le Soir du 7 novembre 1997.